Gargantua est un roman qui a été composé par Rabelais au XVIe siècle, durant la période de l'humanisme. Au cœur de ce roman se trouve traitée la question de l'éducation. Dans un premier temps, en effet, Grand Gousier a confié l'éducation de son fils à Tubal Holoferne, mais insatisfait par les résultats obtenus par son fils, Grand Gousier a décidé de confier cette mission à un autre précepteur, à savoir Ponocrates. Ce dernier, en bon pédagogue, cherche avant tout à comprendre quelle première éducation a d'abord reçu Gargantua avant de procéder à la rééducation, en quelque sorte, de celui-ci. Nous allons lire maintenant cet extrait du chapitre 23. Pour mieux réussir, il l'introduisit dans les milieux de gens savants qui se trouvaient dans les environs, et par émulation se développèrent en lui l'esprit ainsi que le désir d'étudier autrement, tout en se mettant en valeur. Ensuite, Ponocrates le soumit à un tel rythme d'études que Gargantua ne perdait pas une seule heure de la journée, mais qu'il consacrait tout son temps aux belles lettres et à l'honnête savoir. Gargantua s'éveillait donc vers 4 heures du matin. Pendant qu'on le frictionnait, quelqu'un lui lisait une page des Saintes Écritures, à voix haute et claire, avec la diction adéquate. À cette tâche était affecté un jeune page natif de Baché, du nom d'Agnagustas. Selon le thème de l'argument de cette leçon, souvent Gargantua se consacrait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu dont la lecture montrait la majesté des jugements merveilleux. Puis il se retirait au lieu d'aisance pour se purger de ses excréments naturels. Là, son précepteur répétait ce qui avait été lu, en lui expliquant les points les plus obscurs et difficiles. Ceci fait, Gargantua était habillé, peigné, coiffé, tiré à 4 épingles et parfumé. Pendant ce temps, on lui répétait les leçons du jour précédent. Lui-même les récitait par cœur et il y appliquait quelques cas pratiques relatifs à l'être. Ils écoutaient parfois pendant 2 ou 3 heures au moins, mais d'ordinaire, il cessait lorsqu'il était complètement habillé. Puis, pendant 3 bonnes heures, on lui faisait la lecture. Cela fait, il sortait tout en devisant sur le sujet de cette lecture. Il se rendait au grand braque ou dans les prés, et ils jouaient à la balle, à la paume, à la pile, en triangle. Ils exerçaient avec élégance leur corps comme ils avaient auparavant exercé leur esprit. Tout leur jeu ne se faisait qu'en liberté car ils abandonnaient la partie quand il leur plaisait. En règle générale, ils cessaient lorsque leur corps était en sueur ou que, pour une raison ou pour une autre, ils étaient las. Ce texte est composé de 3 parties. En effet, de la première ligne à la 5e ligne, nous découvrons de nouveaux principes pédagogiques. Puis, de la ligne 6 à la ligne 16, c'est une nouvelle éducation qui se met en place et qui ne néglige ni l'âme ni le corps. Enfin, de la ligne 17 à la ligne 23, le lecteur découvre que Gargantua exerce toutes ses facultés. C'est donc une éducation humaniste qui se met en place. Dans un premier temps, on peut voir qu'en fait, le texte s'ouvre sur une série de compléments circonstanciels de but, de lieu, de manière, pour, en quelque sorte, préciser cette nouvelle éducation. On lit en effet, pour mieux réussir, il l'introduisit dans le milieu de gens savants. Donc, l'éducation de Gargantua est corrigée. Un objectif est assigné et un nouvel environnement est défini. De même, l'expression « l'esprit ainsi que le désir d'étudier autrement » indique que cette éducation entre en rupture avec l'éducation moyenâgeuse qu'avait reçue dans un premier temps Gargantua. On relève aussi l'expression « un tel rythme d'étude que Gargantua ne perdait pas une seule heure de la journée ». Donc ici, la subordonnée corrélative qui exprime la conséquence indique que le précepteur de Gargantua refuse l'oisiveté, refuse que du temps puisse être perdu. En effet, tout doit être mis à profit dans l'éducation humaniste. Et très logiquement, on trouve ensuite la phrase « il consacrait tout son temps aux belles lettres et à l'honnête savoir ». Donc ici, c'est un éloge du savoir qui se met en place, qui associe les grands textes et la morale et qui répond parfaitement aux préceptes humanistes. Donc de nouveaux principes sont décidés par Ponocrate, bien sûr, et Gargantua doit désormais les expérimenter, c'est ce que nous allons découvrir plus précisément dans le 2e mouvement. En effet, ici, on va découvrir une éducation qui ne néglige ni l'âme ni le corps, c'est une éducation complète qui se met en place. On lit, par exemple, il s'éveillait donc vers 4h du matin, où on a aussi, pendant qu'on le frictionnait. Tout au long du texte, on va s'apercevoir que les indications temporelles se multiplient et permettent d'appuyer sur une certaine chronologie. La subordonnée de temps va dans ce sens, et les verbes conjugués exclusivement à l'imparfait indiquent aussi que de nouvelles habitudes sont mises en place. L'emploi du temps de Gargantua est parfaitement structuré autour de cette question de l'éducation. Quelqu'un lui lisait une page des Saintes Écritures à voix haute et claire avec la diction adéquate indique également que ces saintes écritures constituent le socle du savoir, c'est la base fondamentale de la connaissance selon les humanistes. Elles doivent être comprises du géant, bien entendu, et ici les adjectifs laudatifs, positifs, vont mettre en valeur les textes sacrés. Je vous rappelle qu'on a haute et claire par exemple, puis l'adjectif adéquat. L'enjeu est précisé un petit peu plus loin avec l'énumération de verbes à l'infinitif, révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu. Et de tout cela, on peut déduire que chez les humanistes, le savoir est indissociable de la morale et de la religion. On observe toutefois un effet tout à fait comique avec la phrase suivante, et notamment l'expression « lieu d'aisance pour se purger de ses excréments naturels », en lui expliquant les points les plus obscurs et difficiles. Donc l'effet comique est obtenu ici par la confrontation entre les besoins de Gargantua et la hauteur de sa réflexion mise en évidence par les superlatifs, les points les plus obscurs et difficiles. Et on se rend bien compte que chez Rabelais, le rire renvoie au bas corporel, ici aux excréments, tandis que le savoir et la réflexion sont à mettre en rapport avec la tête. Mais on doit rappeler ici que, chez Rabelais, le rire et le savoir ne s'opposent pas en fait, hein, ils sont intimement liés, ce que prouve bien ce passage. On voit également qu'il y a un autre type d'éducation qui se met en place, c'est une éducation corporelle, qui repose véritablement sur une forme d'hygiène qui avait été totalement négligée par les précepteurs précédents. L'énumération de participes passés, habillés, peignés, coiffés, tirés à quatre épingles et parfumés le confirme. Et on voit aussi, on déduit aussi, que l'hygiène devient un signe d'humanité. Gargantua grandit aussi dans ce sens. Les compléments circonstanciels de temps qui suivent continuent de structurer l'extrait. Pendant ce temps, on lui répétait les leçons du jour précédent, etc. Donc tout est bien organisé. Lui-même les récitait par cœur, il y a appliqué quelques cas pratiques. Donc on voit que l'élève s'approprie progressivement le savoir. Et ici, on a un des éléments majeurs de la pédagogie des nouveaux maîtres qui est exposé. L'élève est actif. Ils écoutaient parfois pendant 2 ou 3 heures au moins, mais d'ordinaire, il cessait lorsqu'il était complètement habillé. Permet de prouver aussi que les modifications sont prises en compte par le précepteur. Et donc, le maître peut s'adapter aussi aux circonstances. On n'est pas dans un rapport au savoir qui reste figé. On lui faisait la lecture, c'est ce qu'on découvre à la fin de ce mouvement. Le sujet « on » renvoie au maître, tandis que le prononcé « oui », lui, renvoie à Gargantua. Donc, dans cette nouvelle éducation, les rôles sont clairement distribués, le maître est entièrement disponible, il est très présent, et on voit aussi que, de temps en temps, en apparence, Gargantua n'est pas actif, mais on réclame de lui une forte attention pour qu'il puisse s'approprier le savoir qui lui est dispensé. Donc, rien n'est laissé au hasard dans cette éducation. Le programme d'éducation proposé par Ponocrates est chargé, mais il est aussi à la mesure du gigantisme de l'élève. On passe, pour terminer, à ce troisième mouvement qui va permettre de découvrir l'exercice des facultés du personnage principal. Donc cela fait, il sortait tout en devisant sur le sujet de cette lecture. On voit ici la présence de ce verbe de mouvement « sortait » qui indique un mouvement vers l'extérieur, une nouvelle étape dans le programme du géant, et qui prouve que l'exercice intellectuel n'étant pas tout à fait abandonné, on va pouvoir passer maintenant à un exercice beaucoup plus corporel. Il jouait à la balle, à la paume, à la pile en triangle. On a donc une énumération de jeux qui est complétée ensuite par l'utilisation du lexique du plaisir, en liberté, quand il leur plaisait. Donc la dimension ludique n'est pas absente de ce programme éducatif. Au contraire, on s'aperçoit que le jeu et la liberté constituent d'autres apprentissages et ceci reste très fortement lié à l'idée de l'exercice, de l'effort que doit accomplir le géant. On termine avec l'expression « ils exerçaient avec élégance leur corps, comme ils avaient auparavant exercé leur esprit ». Cette subordonnée circonstancielle de comparaison illustre bien cette association des deux activités, à la fois intellectuelle et morale, mais aussi physique évidemment, puisqu'on retrouve ici l'expression « avec élégance leur corps ». Donc l'accent est mis sur la pratique, sur les activités, l'élève n'est pas passif. Et ici, on peut retrouver en quelque sorte une illustration d'une maxime de Juvenal qui disait « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Donc pour conclure, on pourra dire que ce passage est très important dans l'économie du roman puisqu'il illustre les grands principes d'une éducation humaniste. Celle-ci repose sur des éléments essentiels, une éducation à la fois religieuse, à la fois intellectuelle, morale, mais aussi physique. Donc rien n'est négligé, tout est bien mis en place, tout est bien réfléchi par Ponocrates et on attend maintenant les effets positifs, les bienfaits de cette éducation sur le personnage de Gargantua qui devrait évoluer vraiment dans un sens tout à fait positif, c'est-à-dire humaniste. Donc Rabelais a réussi ici un tour de force parce qu'il a, dans un premier temps, rejeté l'éducation moyenâgeuse et puis il a mis en place ici, dans une forme de diptyque, une éducation humaniste qui semble véritablement correspondre à tous les préceptes de son époque et préceptes qui seront repris un petit peu plus tard par Michel de Montaigne.